Une église à qui ressembler? Ça vous dit quelque chose? J'espère, hein, maintenant que nous l'avons dit plusieurs fois. Une église à qui ressembler? Cette église à qui ressembler, c'est l'église vers laquelle on se tourne et on se dit, voilà le genre d'église que nous voulons être. Et depuis quelque temps, nous voyons dans la parole, la Bible, que Dieu nous propose une église modèle. Et c'est lui-même qui nous dit que l'église de Thessalonique est devenue un modèle pour les croyants, comme cela est indiqué dans l'un des versets que nous avons déjà lus, le verset 7. « Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Et si nous avons une église modèle, alors nous avons besoin de faire en sorte de lui ressembler, de lui ressembler. Et ça nous concerne, nous, ici, au 42 rue de Brocéliande, à Beaulieu, ça nous concerne, nous, maintenant, parce que, comme cette église, nous voulons être une église qui rayonne dans la ville. Et regardez cette église de Thessalonique, au verset suivant, c'était une église rayonnante. Sa foi a retenti dans toute la région où elle s'est développée. Le verset 8, non seulement en effet la parole de Dieu ou la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. C'est notre ambition, c'est notre prière, c'est notre désir à l'égard de Dieu que notre foi, que notre réputation, que notre existence soit reconnue, non pas pour nous-mêmes, mais pour que Dieu soit glorifié et honoré. Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Pour ainsi dire, ces croyants n'ont rien fait pour. Ou plutôt si, ils se sont rendus disponibles à la grâce de Dieu qui a agi en eux et qui a permis qu'ils deviennent une église rayonnante. Ces chrétiens ont été visités par l'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul était dans la ville de Philippe, où il a subi avec ses amis, Silas et Timothée, des maltraitements, de l'emprisonnement. Et alors, après avoir vécu cette expérience douloureuse, il décide de quitter la ville de Philippe et aller vers Thessalonique. Et vous imaginez, lorsqu'ils arrivent dans cette ville, ils auraient pu être totalement découragés. Quand vous quittez un endroit où vous avez été maltraité, emprisonné, vous arrivez dans un autre endroit, et en général, on vous a déjà préparé à vous taire et à trembler. Mais l'apôtre Paul est un homme qui savait puiser son énergie et sa force en Dieu. Et alors, en arrivant à Thessalonique, il va regarder en Dieu et il va recevoir l'assurance. Il va recevoir la parésia. Ça vous dit quelque chose, ça? Il va être un parésien à Thessalonique. Autrement dit, loin d'être découragé et renfermé et enfermé dans un endroit, il est sorti dans la place publique et il a à nouveau, au risque de maltraitement, au risque de persécution, à nouveau, il a ouvert la bouche et il a proclamé la parole de Dieu à l'égard de ceux qui l'écoutent. Et voilà que cette parole qu'il a proclamée a retenti dans le cœur de ses auditeurs. Et elle va agir de manière extraordinaire, de manière visible. Elle va transformer ces gens, elle va leur montrer que Dieu est vraiment vivant. Et c'est ce que Paul va leur dire dans tout le chapitre 1er. Il va leur rappeler l'œuvre glorieuse que Dieu a accomplie en eux. C'est ce que nous avons déjà évoqué, n'est-ce pas? Et ensuite, Paul va parler de ses relations profondes avec ses croyants. Pendant les quelques mois qu'il est resté dans la ville, il a tissé des relations uniques avec eux, des relations de fraternité, des relations d'amour, des relations profondes. Et en leur écrivant, il va leur rappeler ces relations, mais surtout, il va leur dire quelle est la conception du ministère et de la proclamation de la parole qu'il avait. Il va saisir l'occasion pour leur dire « Voilà de quelle manière je conçois la pratique ou l'exercice du ministère de la proclamation de la parole de Dieu. » Et c'est ce que nous allons lire, le chapitre 2, versets 1 à 13. Donc je vous invite à la lecture de la parole dans la Bible, 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Vous-même, frères et sœurs, vous le savez aussi, l'accueil que vous nous avez réservé n'a pas été inutile. Nous venions d'être maltraités et insultés à Philippe, comme vous le savez. Mais Dieu nous a donné toute l'assurance nécessaire pour vous annoncer, au milieu d'une grande opposition, la bonne nouvelle de l'Évangile qui vient de lui. En effet, si nous invitons les hommes à croire, ce n'est pas parce que nous serions dans l'erreur ou que nous aurions des motifs malhonnêtes ou que nous voulions les tromper. Non, c'est parce que Dieu nous a jugés dignes d'être chargés de la proclamation de l'Évangile et nous l'annonçons, non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui juge notre cœur. Jamais, vous le savez, nous n'avons eu recours à des discours flatteurs. Jamais nous n'avons tenté de vous exploiter. Dieu en est témoin. Nous n'avons jamais cherché à être applaudis par les hommes, pas plus par vous que par d'autres. Alors même qu'en tant qu'apôtres de Christ, nous aurions pu vous imposer notre autorité. Au contraire, pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse, comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit. Ainsi, dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'Évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie pour vous. Parce que vous nous étiez devenus chers. Vous vous souvenez, frères et sœurs, de nos travaux et de toute la peine que nous avons prise. Tout en travaillant de nos mains jour et nuit pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons annoncé l'Évangile qui vient de Dieu. Vous en êtes témoins, et Dieu aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière juste, pure et irréprochable. Et vous savez aussi de quelle manière nous avons agi à l'égard de chacun de vous. Comme un père le fait pour ses enfants, nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager et de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole de Dieu que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. En vous qui croyez. La parole de Dieu que Paul a écrite à ses croyants est là pour leur rappeler de quelle manière il s'est conduit à leur égard en tant que serviteur de Dieu, en tant que ministre de la parole. Vous savez que l'apôtre Paul a vécu à un moment donné où les gens passaient dans les villes et souvent profitaient des gens et racontaient n'importe quoi. Et donc Paul voulait mettre les choses au point en parlant aux croyants. Et il leur dit, voilà de quelle manière j'ai exercé le ministère que Dieu m'a confié. Il ne cherchait pas à se défendre contre certains qui l'attaquaient, comme cela est déjà arrivé dans d'autres lettres. Certains l'accusaient à tort et à travers, et il a pris le temps de se défendre. Mais ici, il prend seulement le temps de préciser le sérieux de la mission que Dieu lui a confiée, et aussi les règles de conduite qu'il a adoptées chaque fois qu'il était en face de gens à qui il proclamait la parole de Dieu. Vous savez que Dieu a déposé un trésor inestimable entre les mains de Paul. C'est comme ça que Dieu agit. Il travaille avec les humains pour toucher d'autres humains. Amen. Dieu a choisi ce moyen-là et nous avons à l'accepter. Et alors il a choisi Paul pour qu'il soit un proclamateur au monde entier, à tous ceux qui n'étaient pas juifs, proclamateur de la bonne nouvelle de Jésus. Et Paul, voyant ce privilège immense, ce trésor sans fin, il a compris qu'il avait une lourde responsabilité et que ce trésor, pour être communiqué, doit respecter des règles. Et que ce trésor ne devrait jamais être une occasion de profit, mais au contraire, une occasion d'enrichissement des autres et de bien à l'égard des autres. Donc, dans ces versets, nous voyons comment Paul concevait le ministère que Dieu lui a confié. Vous comprenez alors que ce passage est essentiel pour nous, parce qu'il nous donne une direction. Il donne une direction à tous ceux qui sont dans le ministère. Ces versets jouent un rôle essentiel pour moi personnellement, parce qu'ils me montrent la manière dont je dois pratiquer le ministère que Dieu m'a confié parmi vous. Mais je voudrais que ça parle à chacun d'entre nous. Nous avons tous besoin d'un modèle. En tant qu'Église, nous avons besoin d'un modèle. Et l'Église de Thessalonique en est une. Mais à titre personnel, nous avons besoin de modèles. Sur le plan du travail, nous pourrions avoir besoin d'un modèle. Sur le plan de la manière d'être père, d'être mère, nous pourrons avoir, et nous avons certainement besoin d'un modèle. Sur le plan de la pratique de la foi, de la relation avec Dieu, de la relation avec les autres, dans tous les domaines de vie, nous avons besoin de modèles. C'est légitime. Nous avons le modèle suprême, Jésus-Christ, mais il s'incarne dans d'autres humains pour qu'il soit modèle pour nous. Et nous avons besoin d'un modèle sur le plan de la pratique du ministère. Et Paul se livre comme modèle. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous avons envie, j'ai envie de prendre Paul comme mon modèle. C'est ce que je vous propose comme premier point. Mon modèle, c'est l'apôtre Paul. En lisant 1 Thessaloniciens 2, il y a longtemps, je me suis dit, ça c'est vraiment le genre de ministère que je voudrais vivre dans ma vie. Et je me suis donné ça comme but. Non pas que j'ai atteint le but, comme le dit l'apôtre Paul lui-même, mais ça me donne un objectif et ça me montre vers quelle direction aller. Et je peux vous dire que le niveau est très haut. Le niveau est très haut. La barre est très très haute. Et tant mieux, parce que si Dieu nous demandait de sauter 50 cm, ça ne sert à rien. Quand Dieu nous demande de compter sur lui, de nous appuyer sur lui, quand Dieu nous dit « Je serai avec toi pour que tu accomplisses ma volonté, mais je veux que tu sois défié par ma grâce, par mon amour », là c'est bien. Le défi, c'est un moyen énorme de nous stimuler, de faire naître en nous la force de Dieu, de nous encourager, de nous faire avancer. Quand Dieu nous lance des défis, ce n'est pas pour que nous tombions, c'est pour que, par le moyen de ce défi, nous puissions nous élever vers lui et aller de l'avant. Voilà mon modèle lorsque j'ai lu ces versets. Voilà ce que je voudrais devenir. Et d'ailleurs, pourquoi Paul ne serait-il pas le modèle ? Lui-même nous le demande plusieurs fois, n'est-ce pas ? Lui-même invite tous les chrétiens en leur disant « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. » Et vous savez, lorsque nous sommes les imitateurs de Christ, lorsque nous sommes les imitateurs de Paul, nous pourrions dire aux autres « Tu peux m'imiter. » Ça semble tellement prétentieux, n'est-ce pas ? Pourtant, c'est ce que Dieu nous dit. C'est ce que l'Église de Thessalonique a vécu. Ils sont devenus un modèle, mais vous savez pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes avaient un modèle devant eux. L'apôtre Paul et Jésus-Christ. C'est ce que Paul leur dit. Il leur dit, vous êtes devenus mes imitateurs et les imitateurs des autres églises. Et parce que vous avez agi ainsi, vous êtes vous-mêmes devenus des modèles pour d'autres croyants. Et cela est très important. Sachant que Dieu est à l'œuvre en nous, pour nous rendre capables, nous pouvons vraiment compter sur lui et nous donner comme objectif ce qu'il nous propose comme un idéal, comme un but qui vient vraiment de lui. Donc, j'insiste, Paul est un modèle pour chacun de nous, dans le courage, dans la hardiesse, dans la manière de vivre, dans le service de Dieu, dans la manière d'assumer la mission que Dieu lui a confiée. Mais je voudrais m'arrêter sur un point important qui est les motivations du service. qu'est-ce qui nous motive pour servir Dieu? Mes motivations pour le ministère. Si Paul est un modèle pour moi, ses motivations sont les miennes aussi. Et nous allons voir quelles sont ses motivations. Comme je le disais tout à l'heure, Paul vivait à une époque où vous aviez tellement de personnes, des philosophes, des porte-paroles, des divinités païennes, des sages, des autoproclamés savants qui allaient de ville en ville. Ils arrivaient dans les places publiques et ils parlaient. Mais la majorité de ces gens, sous prétexte de religion, ils faisaient du commerce parce qu'ils profitaient de la naïveté des gens et ils cherchaient une chose, l'argent. La cupidité était leur mobile numéro un. Paul faisait la même chose que ces gens-là, mais il voulait absolument se démarquer de ces gens-là pour qu'il n'y ait pas de confusion. Lui, il avait un message important, sérieux, et au lieu de profiter des gens, il va exprimer ici les motivations qui vont le pousser à agir. Dans les versets 3 à 6, Paul va préciser que contrairement à beaucoup de ces charlatans, ces motifs n'étaient pas des motifs malsains, des motifs de profit. Il n'allait pas voir les gens pour obtenir de l'argent. Son offre de l'évangile n'était pas intéressée. Contrairement à d'autres charlatans qui parlaient le matin et le soir demandaient à être logés et nourris aux frais des habitants. Paul avait un ministère désintéressé totalement. Et vous remarquez au verset 3, « Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. » C'est ce qu'il dit à ces gens. Le message proclamé par Paul était un message vrai, c'était un message pur, c'était un message sincère et surtout, c'était un message digne de confiance parce qu'il venait de la part de Dieu. Au verset 5, Paul va préciser qu'il n'avait pas d'arrière-pensée lorsqu'il a proclamé l'Évangile. Personne ne pouvait l'accuser de cupidité, d'intérêt matériel ou financier. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est plus qu'essentiel de rappeler cette vérité-là. Parce qu'il y a des rapaces qui profitent de l'Évangile. Il y a des rapaces qui vendent l'Évangile au prix d'argent. Il y a des rapaces qui n'ont pas changé et qui ressemblent aux charlatans de l'époque de l'apôtre Paul. Et nous avons besoin d'être attentifs et d'être vigilants. En tout cas, c'est une chose que vous ne vivrez jamais dans cette église-là parce que l'Évangile est offert gratuitement sans aucune arrière-pensée. Nous avons besoin de nous rappeler que Dieu donne gratuitement et l'Évangile est gratuit. Paul n'a pas cherché à tirer avantage des autres. Il rappelle ça au verset 5. « Nous n'avons usé de paroles flatteuses envers personne. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité comme mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire des hommes, ni de vous, ni des autres. » Mais alors, si ces éléments n'étaient pas les motivations de l'apôtre Paul, quelles étaient ses vraies motivations? Qu'est-ce qui faisait courir l'apôtre Paul jour et nuit sans jamais se fatiguer, sans jamais jeter l'éponge? Vous savez quoi? C'est le verset 4. « Selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde les cœurs. » Qu'est-ce qui motivait l'apôtre Paul? Son désir de plaire à Dieu. Dans toutes les épîtres de l'apôtre Paul, cela revient constamment. Par-dessus tout, ce que Paul voulait, c'est d'être agréable à Dieu, de l'honorer, de lui plaire, afin que, à la fin de sa vie, le sceau de vérité de Dieu soit apposé sur sa vie. Fidèle serviteur, tu as été fidèle en toutes choses, tu m'as servi comme il faut. Et entre dans le repos de ton maître. Ce que Paul voulait, c'était qu'une seule personne l'approuve, Dieu. Bien sûr, il cherchait l'approbation des hommes, mais pas au dépens ou au détriment de l'approbation de Dieu. Ça, c'était le plus important pour lui. Un verset, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9, voilà ce que Paul dit, hein, je le lis pour vous. Que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. Que nous restions vivants, que nous mourions, quelle est l'ambition de Paul, l'unique ? Plaire au Seigneur. Si vous vous donnez ça comme but, si vous vous fixez ça comme motif, c'est cela et ce qui est la source de votre dynamisme, de votre énergie, de la force qui vient de Dieu, alors là, vous êtes sur le bon chemin. Et c'est ce que je voudrais faire de tout mon cœur. Je voudrais que mon motif unique, seul, soit vraiment de plaire au Seigneur, de l'honorer et de le glorifier. Il y a tellement d'autres passages dans lesquels Paul nous appelle tous à avoir comme but de plaire à Dieu. C'est le plus important. Vous savez que Dieu évalue nos motivations. Un jour, il fera passer comme au travers du feu ce que nous faisons. Il ne restera alors que ce qui a été motivé par l'amour et par le désir d'honorer Dieu et de lui plaire. Le reste sera brûlé, le reste disparaîtra, comme la paille lors d'un incendie. Il ne reste que du noir, rien. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'examiner nos motivations, de regarder à Dieu en lui disant, mais pourquoi en fin de compte je me décarcasse? Pourquoi en fin de compte je déploie tant d'énergie? Pourquoi en fin de compte je consacre mon argent, mon temps à toi? Qu'est-ce que je veux? Paul dit, je ne veux pas plaire aux hommes, je veux plaire au Seigneur. Je veux plaire au Seigneur. Si vous voyez ce que je fais pour Dieu, si je vois ce que vous faites pour Dieu, vous savez ce que Dieu voit? Il voit surtout pourquoi je le fais. Pourquoi tu le fais? Et ça compte plus que ce que je fais. Le pourquoi compte plus que le quoi. Je peux donner ma vie, mais si mes motivations ne sont pas pures, aux yeux de Dieu, ça ne vaut rien. Mais je peux aussi ne donner qu'une petite pièce. Mais si mes motivations sont pures, ça vaut plus que le don de soi. Parce que la motivation importe beaucoup plus. S'attacher à plaire à Dieu donne de la force. S'attacher à plaire à Dieu donne la direction. S'attacher à plaire à Dieu donne de la persévérance. Plaire à Dieu, c'est juste la réponse de celui qui a tout fait pour nous par avance. Si je cherche à être agréable à Dieu, ce n'est pas pour obtenir quelque chose de lui. C'est pour lui dire ma reconnaissance de tout ce qu'il a déjà accompli pour moi. Et si je prends le temps de mesurer ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux que lui dire, Seigneur, que puis-je faire pour te plaire? Que puis-je faire pour te plaire? Plaire à Dieu. Motivation très importante. Paul dit, je ne cherche pas à plaire aux hommes. Et alors, il peut y avoir un paradoxe. Parce que dans d'autres passages, il nous dit, mais il faut chercher à plaire aux hommes. Mais comment se fait-il, Paul, que tu nous dises, là, je ne cherche pas à plaire aux hommes, et dans Romains 15, verset 2, tu nous appelles à plaire à chacun. Romains 15, 2. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Dans d'autres versions, que chacun cherche à plaire à son prochain. Dans la Bible du Semeur, de Second, par exemple, voilà, je lis dans ce passage, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Qu'est-ce qui fait que plaire aux hommes peut être mauvais, plaire aux hommes peut être bon? Eh bien, je vais vous le dire. Plaire aux hommes est mauvais quand je cherche à leur plaire pour que je m'attire la gloire, pour que je sois flatté. Si je fais quelque chose pour que vous disiez « qu'est-ce qu'il est bien » et que tout se tourne vers moi, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de me grandir au détriment de Dieu. Et ça, c'est absolument mauvais. Et c'est ce que Paul ne voulait surtout pas faire. Son intérêt, c'était de plaire à Dieu, de mettre toute la lumière sur le Seigneur, et donc, il refusait d'attirer l'attention sur lui et de se faire applaudir pour les autres. Mais quand il s'agit non pas de soi, mais des autres, à ce moment-là, plaire aux hommes devient très important. Parce que Paul dit, moi ce que je veux, c'est plaire aux autres, mais dans quel but ? Non pas pour que je sois applaudi, mais pour que les autres soient grandis, pour qu'ils grandissent dans la foi. Et ça, c'est un motif important. Plaire à Dieu, c'est important, mais plaire au prochain est important aussi. Ça, c'est un motif essentiel. Prendre soin des autres, c'est ce que Paul va dire aux Thessaloniciens. Ce qui me motive, c'est plaire à Dieu, mais ce qui me motive aussi, c'est prendre soin de vous. Investir mon énergie et ma vie en chacun de vous. Regardez, par exemple, le verset 3, non, le verset 6, où il prend la mère comme exemple. Il va leur dire, moi, quand j'étais au milieu de vous, j'étais comme une maman. Et de la même manière que la maman s'occupe de ses enfants, les nourrit, prend soin d'eux et les chérit, voilà comment j'agissais à votre égard. Paul était un homme dont la préoccupation était de faire du bien aux autres, de les aider à grandir, de les élever vers le haut et non pas de faire tout pour les rabaisser. Ça, c'était sa motivation. Il a investi sa vie dans la vie des gens. Il ne s'est pas contenté de parler comme les autres charlatans. Il ne s'est pas contenté de leur dire quelques mots et de partir ailleurs. Non, il est resté avec eux. Il a passé du temps avec eux. Il ne leur a pas demandé d'argent. Il a travaillé de ses mains pour ne pas être à charge. Et surtout, il prenait soin de chacun. Il avait une relation avec chacun. Et il disait, je me suis occupé, non pas de l'Église tout entière seulement, mais de chacun de vous. De chacun de vous particulièrement. Donc il avait un réel souci des autres. Par l'utilisation de l'image de la mère, il évoque son amour de ces chrétiens où il a fallu juste quelques mois pour qu'il leur soit attaché corps et âme et qu'il soit prêt à donner sa vie pour eux. Parce qu'il leur dit, vous voyez, moi quand je suis venu vous voir, lorsque je vous ai annoncé l'évangile, loin de m'enrichir à votre détriment, c'est moi qui vous ai enrichi. Je vous ai apporté la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je vous ai apporté la consolation du Seigneur. Je vous ai proclamé le Seigneur qui a restauré vos vies, qui a consolé votre cœur, qui a encouragé vos familles et ainsi de suite. Et vous voyez, prendre soin des autres, s'occuper d'eux, c'est l'essentiel de la mission du berger. Un bon berger prend soin de ses brebis. Un bon berger s'occupe de ceux que Dieu peut lui avoir confiés. Et c'est mon but, mon désir. En tout cas, c'est ce que je me fixe comme objectif. Mais ça ne me concerne pas moi seul. Parce que chacun de nous a quelqu'un à côté de lui pour lequel il peut être un berger. Pour lequel il peut agir pour que la personne grandisse. Et non pas qu'elle soit détruite. Et combien il importe pour chacun de nous de voir que vraiment, ce que Dieu désire, c'est que nous investissions notre vie dans la vie des autres. Parce que investir sa vie dans la vie des autres, c'est vraiment la retrouver. C'est vraiment la récupérer pour le mieux, pour le meilleur. Ce n'est pas du gâchis. Et quand le berger prend soin de ses brebis, c'est son bonheur à lui. Vous ne pouvez pas imaginer toute la joie que Dieu peut me procurer au travers de vous. C'est merveilleux de voir que l'un a remporté une victoire et de se réjouir avec lui. C'est merveilleux de savoir qu'un tel a lutté contre une addiction et il est sur le chemin de la guérison. C'est merveilleux de voir que quelqu'un vient de nulle part et que maintenant, son cœur est tout bouillant pour Dieu, il est prêt à livrer corps et âme au Seigneur par amour pour lui. C'est merveilleux de voir que l'un a fait un pas de géant dans la foi, que l'autre, même en trébuchant, il ne renonce pas. C'est merveilleux de voir que vous aimez le Seigneur, que vous voulez le servir et d'être à vos côtés, de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, et surtout, de prendre les brebis fatiguées sur les épaules, de les tenir par les bras, de marcher avec elles, de leur apporter la consolation et l'encouragement. Voilà ce que Dieu, en tout cas, désire que nous mettions en œuvre, moi en particulier, chacun de nous, de manière générale. C'est l'essentiel même du ministère. Paul dit, je fais tout ça parce que vous êtes devenus chers. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer l'amour d'un pasteur pour ceux qu'il côtoie. C'est cet amour qui peut faire agir malgré la fatigue, malgré les tourments, malgré les épreuves, malgré les douleurs. Un autre pasteur qui est un modèle pour moi, Spurgeon, qui a vécu au XIXe siècle, qui a dit une parole qui reste toujours gravée dans mon cœur. « Seigneur, je me suis fatigué à ton service. » Et c'est vrai, mais je ne me suis jamais fatigué de ton service. Parce que tous les matins, la force est renouvelée par la grâce de Dieu. Et quand la fatigue est là le soir, le matin, Dieu renouvelle et restaure. Et Dieu donne du courage pour ouvrir son cœur à ceux qui sont fatigués et qui en ont besoin, et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Je répète, ce n'est pas que j'ai atteint le but que vous l'ayez atteint, mais c'est un but à se proposer à soi-même, pour que ce soit notre motivation, pour que ce soit notre manière de vivre, notre manière d'être. Et quand c'est le cas, notre Église sera une Église qui rayonne dans la cité véritablement. Investir notre vie dans la vie des autres, les faire grandir pour que Dieu se glorifie en eux, pour que l'expérience de la grâce de Dieu soit manifeste en eux, c'est une motivation importante. Et si Paul est un modèle, il ne l'est pas seulement dans les motivations pour le ministère, il l'est aussi dans le message qu'il proclame. C'est le point numéro 3. Mon message pour l'Église, c'est un message pour encourager afin de faire grandir. L'apôtre Paul va rappeler le message qu'il avait pour les Thessaloniciens. Et il va leur dire, voilà comment je me suis pris avec vous. Pour être rapide, il va employer 3 mots au verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Paul utilise l'image de la mère et l'image du père. L'image de la mère, c'est pour la douceur. L'image du père, c'est pour les encouragements, pour la consolation. Ce peuple de Thessalonique était un peuple qui avait besoin d'encouragement parce qu'ils étaient persécutés par leurs concitoyens. Et vous avez besoin d'encouragement parce qu'il y a tant de choses qui nous rendent la vie compliquée. Pour ne pas abandonner, pour aller de l'avant. Ce peuple avait besoin de consolation parce qu'ils étaient épuisés par l'ennemi. Et Paul était là pour leur apporter la consolation. Et vous en avez besoin. Et c'est ce que je veux faire parce que ma prédication ne sera jamais dans la culpabilisation. Elle ne sera jamais dans le reproche. Elle sera toujours dans « Dieu est là pour agir en toi ». Peu importe dans quel état tu te trouves, peu importe où tu es, peu importe ta foi, peu importe ta faiblesse, peu importe ta maladie, Dieu est là et ce sera des paroles d'encouragement. Encourager ceux qui ont besoin d'être encouragés. Consoler ceux qui sont dans la difficulté, qui ont besoin d'être consolés. Et parfois, peut-être être un peu, comment dire, énergique pour conjurer certains qui auraient besoin d'être remis sur le droit chemin en disant « Attention, là, tu n'es pas sur la bonne voie. Ce n'est pas pour détruire, c'est toujours pour que Dieu soit honoré. » Parce que le but de la consolation, de l'encouragement et de la manière, j'allais dire forte, de dire les choses, c'est afin que vous meniez une vie digne de Dieu. C'est ce que Paul dit. « Je fais tout ça pour que vous meniez une vie digne de Dieu. » Mener une vie digne de Dieu, c'est être vraiment sur le chemin du bonheur. C'est être sur le chemin de la paix. C'est obtenir ce que notre cœur désire véritablement. Et comme je voudrais vous voir tellement heureux, tellement dans la paix, tellement dans la joie, je ne peux que vous encourager à mener une vie qui est digne de Dieu. Parce que alors là, vous serez sur le chemin que Dieu trace pour vous. J'ai beaucoup parlé de moi. Et comme je dis que c'est une église modèle pour nous tous, il va falloir que je parle de vous maintenant. Alors, vous pourriez dire, mais les Thessaloniciens, en quoi sont-ils un modèle pour nous ? Eh bien, ils sont un modèle pour nous dans le verset 13. Et ils le sont par leur manière d'avoir écouté et reçu la parole. Le point numéro 4, votre mise en pratique de la parole, c'est votre réponse. J'ai cherché à ce que tous les mots commencent par M. C'est comme ça que vous allez retenir ça, n'est-ce pas ? Paul, mon modèle. Paul, mes motivations, mon message et la mise en pratique. Quand Paul est arrivé chez les Thessaloniciens, ils se sont conduits de manière exceptionnelle. C'est ce qu'il leur dit au verset 13. « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole, vous l'avez reçue, non comme une parole d'homme, mais ainsi qu'elle l'est vraiment ou véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous. » Vous voyez ce qui est important et ce qui est le modèle pour nous dans cette église-là, c'est leur manière de répondre à ce qu'ils écoutent. Vous savez, Dieu parlera toujours à travers sa parole, mais sa parole, elle est incarnée ou elle est mise dans la bouche d'êtres humains. Comme pour Paul, comme pour moi, nous sommes des humains, mais Dieu nous utilise afin que sa parole se répandent dans les cœurs. Mais comment vous écoutez cette parole ? Ça, c'est très important. Alors, je vous encourage à être comme cette église de Thessalonique qui fait bon accueil à la parole de Dieu, qui est disposée et qui reçoit cette parole et ainsi, cette parole accomplit une œuvre incroyable en elle. Nous avons déjà parlé de la foi, de l'amour, de l'espérance de ces chrétiens. Ils ont expérimenté une réelle transformation dans leur vie. Ils ont vécu la joie de l'Esprit de Dieu. Ils sont devenus une église rayonnante. Comment tout cela s'est-il produit dans leur vie ? Comment ? Parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Non pas parole d'homme, mais parole de Dieu. Dieu vous demande d'examiner, de juger, d'évaluer. Mais en même temps, d'ouvrir votre cœur à sa parole, afin qu'elle accomplisse son œuvre en chacun de nous. Les Thessaloniciens ont répondu à l'interpellation de l'apôtre Paul, à l'annonce de l'Évangile. Ils ont entendu l'apôtre Paul leur annoncer le Seigneur Jésus, et ils ont répondu avec confiance. Ils ont répondu avec attention. Vous voyez la démarche qu'ils ont adoptée, c'est qu'ils ont d'abord écouté. Vous avez reçu la parole que nous vous avons fait entendre. Ils ont écouté. Ça commence par les oreilles. Et puis, ils ont reçu cette parole dans leur cœur. Et en recevant cette parole dans leur cœur, ils ont manifesté la confiance en cette parole. Donc, écouter, recevoir, manifester la foi et le résultat, c'est l'efficacité de cette parole dans la vie. Elle va agir, elle va accomplir son œuvre en vous. Elle va accomplir son œuvre en nous tous. Si la parole de Dieu est proclamée, si la parole de Dieu est lue, si la parole de Dieu est partagée, là je ne parle pas simplement de moi, vous pouvez avoir une parole pour quelqu'un d'autre. Et s'il vous écoute et qu'il reçoit cette parole et qu'il utilise la clé essentielle à l'action de cette parole, quelle est cette clé ? La foi. Alors, la parole va agir avec puissance. Elle va accomplir son œuvre. C'est ce que Paul dit dans ce passage, n'est-ce pas ? Le verset 13. Ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu ne pourra pas agir sans la foi. La foi est la clé qui ouvre le cœur et l'intelligence et qui permet à Dieu d'accomplir son œuvre en nous. Écouter, recevoir, répondre par la foi et agir par la parole. Vous imaginez quand nous agissons comme ça? Vous imaginez lorsque nous écoutons, lorsque nous recevons la parole et lorsque nous lui répondons avec foi? Vous imaginez ce qui se passe? Ben, il se passe que notre vie porte du fruit. Vous voyez la pluie qui tombe? Elle fait du bien à la terre. La Normandie commence à jaunir. C'est une maladie grave, la jaunisse. Mais quelle bienfaisance que cette pluie qui tombe. Demain, ça commencera à verdir, à reverdir à nouveau. Et on dira, ah, c'est chouette, notre Normandie. Enfin, nous retrouvons notre Normandie. La parole de Dieu est comme la pluie. Dans l'Ancien Testament, elle est très souvent comparée à la pluie. Elle descend du ciel. Elle pénètre le sol qui est notre cœur. Et elle fait germer de magnifiques fleurs, de magnifiques qualités que Dieu veut nous voir, lui, manifester. Mais rappelez-vous, nous avons besoin de la foi pour que notre cœur ne soit pas endurci. Parce que quand la terre est dure, la pluie a beau tomber, elle glisse et elle va dans les égouts. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Que la parole de Dieu trouve un cœur tendre, des oreilles attentives et qu'elle accomplisse son œuvre en nous. Parce que le but, c'est vraiment que nous soyons dans le chemin de Dieu et que nous menions une vie qui lui plaise et qui l'honore. Je lis un passage pour terminer dans Ésaïe 55. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Le dessein de Dieu, son projet et sa volonté pour nous, c'est que nous devenions comme Jésus-Christ, son Fils. Et il est en train de faire ce travail par sa parole qui agit en nous par l'efficacité de son esprit. Que Dieu nous aide et que Dieu agisse dans notre vie pour que nous soyons vraiment sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Notre Père, nous nous réjouissons en toi et nous voulons glorifier ton nom. Tu es le Seigneur, le Sauveur. Tu es le Dieu fidèle. Nous te remercions parce que tu agis dans notre vie et tu veux nous conduire sur ce chemin qui peut être difficile parfois, mais c'est un chemin où nous ne marchons jamais seuls, tu es avec nous. Ta parole est là pour nous éclairer. Ton esprit est là, Seigneur, pour illuminer notre intelligence, pour nous donner la sagesse, pour comprendre cette parole. Nous implorons ton nom, qu'elle pénètre dans notre vie et qu'elle porte le fruit attendu. Béni sois-tu pour tout. Nous te prions par le Christ. Amen. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, je vous avais dit que vous étiez cap. Ça vous dit quelque chose? Cap, cap, cap. Ou alors vous avez obtenu votre CAP. C'est un moyen pratique de mettre en pratique la parole de Dieu. C-A-P. C pour changer, A pour appliquer et P pour partager. Comme quoi il faut répéter très souvent. Donc, tes caps, nous deviendrons capables vraiment lorsque nous prendrons le temps de mettre en pratique la parole. Et là, je vous demande de prendre le temps de réfléchir dans ce que je viens d'entendre. Est-ce qu'il y a des choses en moi que je dois changer? C'est. Est-ce que je dois changer quelque chose? Par exemple, mon attitude à l'égard de la parole prêchée. Peut-être que je ne suis pas très attentif, peut-être que j'ai besoin vraiment de me focaliser. Mais peut-être que vous n'avez pas ce problème. À ce moment-là, appliquez. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de mettre en pratique, vraiment? Une petite chose que j'ai entendue. Mais peut-être que vous pensez à quelqu'un qui passe par un moment difficile et il a besoin d'un encouragement. Et vous pouvez dire, mais avec qui je pourrais partager ce point, cette chose que j'ai entendue, cet aspect-là? C'est comme ça que nous mettons en pratique la parole de Dieu et qu'elle agit dans notre vie. Alors je vous encourage à partir dans votre cœur avec ces questions-là. Que puis-je changer ou que dois-je changer? Que pourrais-je mettre en pratique ou en application? Qu'est-ce que je pourrais partager et avec qui je pourrais le partager?